Est-ce que l'anecdote sur le prix est vraie?
L'aventure Richard Mille de ces années-là, elle a donné la confiance à beaucoup de gens.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Laurent Picciotto. Bonjour Laurent, comment vas-tu?
Bonjour, je vais très bien.
Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Et là justement, on se lance dans un nouveau type de format qui va s'appeler les chroniques horlogères, où justement tu vas nous donner ton avis sur des marques, sur le marché à une certaine époque. Et justement, aujourd'hui, on va parler de la marque Richard Mille parce qu'il se trouve que, de ce que tu m'as dit, les prémices de la marque ont été dans ce bureau.
En grande partie.
Ouais. Et donc, la première question qui me vient en tête, c'est comment tu l'as connu et à quelle occasion?
Richard, je le connaissais de loin, je le connaissais peu. Il était à l'époque directeur général chez Mauboussin. Et il s'est mis à fabriquer pour Mauboussin des pièces, plutôt de joaillerie, mais souvent des pièces compliquées type tourbillon.
Okay.
Ce qui l'a amené en fait à découvrir, par rapport à son parcours horloger, de travailler en fait avec des sous-traitants et des gens qui font du private label en Suisse. C'est très probablement d'ailleurs à cette époque qu'il a rencontré Dominique Guenin. Son associé qu'il y a encore aujourd'hui. Et puis, un jour, il me montre un tourbillon Mauboussin. Nous, pas tellement notre univers, surtout que c'était des tourbillons thématiques, aussi bien sur la corrida, le football ou autre. Bon. Et puis, un bon matin, il vient me voir, il me dit « Je vais monter ma propre marque et j'aimerais bien venir discuter avec toi 2 heures par semaine. » Pour avoir au niveau du produit, ton sentiment, etc. Bon, ok. Et puis, assez rapidement, dans cette cave, les 2 heures sont devenues 10, 15, 20, voire parfois toute la semaine.
Ok.
Et donc, on a pas mal travaillé sur cette période, sur la RM01, donc, qui était la première montre de la marque, qui avait donc son capteur de couple, donc avec une échelle de force en décis newton millimètre, avec tout ça étant réalisé au niveau du mouvement par Renaud Papier à l'époque.
Ok. Qui appartenait à Audemars.
Qui appartenait déjà à Audemars Piguet à l'époque. Et si tu veux, nous on passait notre temps chez Renaud Papier, donc nos interlocuteurs c'était Julio Papier et Fabrice Deschanel.
Ok.
Fabrice qui aujourd'hui. Donc, chez Grobel Forcé. Et on passait notre temps finalement à demander à Renaud et Papy à chaque fois plus. C'est-à-dire, on faisait ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire les malins en disant oui, mais non, on voudrait faire que la platine soit métallisée, on voudrait des vis particulières, on voudrait un couvercle de barillet qui soit en titane avec des nervures bien particulières, etc., etc., etc. Et puis à un moment, quand on avait un peu demandé tout ce qui était dans les idées pour avoir quelque chose d'assez radical, au-delà du dessin qu'avait déjà Richard, il est arrivé, il avait déjà le dessin. Il y a beaucoup d'histoires d'ailleurs, des polémiques dans lesquelles je ne rentrerai pas parce que je n'en sais rien à vrai dire, même si j'ai 2-3 idées sur qui a dessiné, mais bon. Toujours est-il qu'une fois qu'on a eu épuisé un peu toutes les exigences complexes qu'on pouvait demander à Renaud Papy, on a dit voilà maintenant. Et eux nous disaient, écoutez les gars, vous êtes gentils, mais ça va coûter vraiment un saladier quoi. Alors on continuait de faire les malins en disant Si ce n'est que le jour où les gars nous font le total, devis. Le devis, etc. Là, ça rigole moins.
Non,
moins les malins. Et puis, il y a eu une période un peu de flottement qui a duré 2-3 jours. Où, en fait, on est arrivé à un prix certain. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on est très loin de ce que c'est devenu. Mais si on replace dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire en 2001, on est parti à ce moment-là pour aller vers un prix de vente TTC de 176 000 euros.
okay.
sur la RM 001. Bon, aujourd'hui, on pourrait estimer que l'équivalent d'aujourd'hui, c'est une pièce à 700 000,
quand même.
800 000, 900 000, je ne sais pas exactement. À l'époque, 176 000 euros, au début des années 2000, c'est trois fois, voire plus de trois fois le prix d'un tourbillon d'une marque institutionnelle, historique, etc. Donc, et là, j'ai envie de dire, on part aussi du concept à l'époque de dire, en tout cas, Richard, il a une approche en disant, il faut qu'on soit radical. Et moi, dans radical, j'entends et je traduis implacable. Et donc, sur la base de chacun son vocabulaire, quand le prix tombe, je dis bon, bah voilà,
go.
Et Richard, il a le doute.
Okay.
Il dit ouais, mais bon, c'est pas évident. Bien sûr que c'est pas évident.
Pas surtout.
Sauf que,
à l'époque,
si je veux être radical ou implacable, parce qu'à un moment, il se pose même la question de dire est-ce qu'il faut pas revenir un peu en arrière, sous-entendu revenir un peu en arrière sur certaines modifs, sur certaines okay. finitions, sur certaines actions, sur certaines façons d'aborder le mouvement ou la montre en elle-même. Et je lui dis, mais si on est radical, si tu veux revenir en arrière de quoi? C'est-à-dire, en fait, on va faire un compromis. On ouais. va revenir de 10 000 ou de 50 000 ou de 100 000. Enfin, je veux dire, c'est plus du tout la même chose. Et puis bon, donc, on se quitte. Et trois jours après, en disant, bon, ok. Je dis, moi, je pense que sinon, on n'a rien à dire. Et peut-être d'ailleurs que si ça n'avait pas été dans ce sens-là, les choses, mais bon, après, on ne fait pas les histoires, mais les choses seraient peut-être un peu différentes. Et c'est vrai que ce qui a capté l'attention des gens à l'époque, c'est évidemment le design de la montre et son approche assez radicale. Mais on ne peut pas mettre de côté que le prix a été aussi.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, sans être critique, j'ai envie de dire que c'est devenu le principal. En tout cas, peut-être pas argument, mais élément de distinction. Mais en tout cas à l'époque, c'est clair que moi, évidemment, avec à peu près toujours les mêmes détaillants, c'est-à-dire à part quelques-uns qui ont arrêté depuis, mais enfin qui ont arrêté leur activité, j'entends, je suis le laboratoire à ce moment-là, évidemment, Richard est là tout le temps, etc. Et donc on commence à recevoir les premières montres. Il faut savoir que la première année, il y a 43 montres qui sont fabriquées. Et puis il y a okay. un seul modèle.
D'accord.
C'est un tourbillon RM 001. Alors ok, en or gris ou en or jaune d'ailleurs. L'or rose viendra plus tard. Et en titane.
D'accord.
Mais le titane et l'or rose sont au même prix parce que c'est plus la valeur du mouvement et le peu de pièces fabriquées qui construisent le prix en fait aussi. Mais en termes de laboratoire, on voit beaucoup de clients qui arrivent à cette époque-là et qui, à un moment, disent... et des clients qu'on connaît, nous, parfois, depuis très longtemps, et qui disent « Ah oui, oui, c'est sympa, etc. » Et puis, qui disent « Ça vaut quoi ?» Et là, quand on leur dit le prix, « Attends, je peux regarder de plus près ?» Alors, ce qui est un réflexe normal. Parce que si je te dis « Tiens, cette paire de lunettes, ouais, elle est cool, je la trouve sympa. » Si je te dis qu'elle vaut 30 000 euros, tu vas me dire « Attends, je vais la regarder de plus près. »
Bon.
Et donc là, c'était un peu la même chose. Et du coup, ça a effectivement bousculé un peu l'état d'esprit d'un certain nombre d'amateurs, avec certains qui dès le départ sont rentrés dans le jeu et ont dit ok, fantastique, j'y vais. D'autres qui l'ont pas fait, qui le regrettent maintenant parfois, mais pour des raisons moins avouable, c'est-à-dire des...
Purement spéculatif,
ou spéculatif plutôt. Et ça démarre comme ça. Et c'est vrai que la première année, on vend 5-6 tourbillons ici. Et,
okay.
et derrière, on aborde des gens comme Marcus à Londres, qui était, on va dire, dans les strates type chronopassionnesque de l'époque, Pisa à Milan, les ambassadeurs à Genève, Westheim avec les Simonians à Los Angeles. Et puis voilà, les choses commencent comme ça. Et c'est vrai que bon, assez vite, hein, parce que 43 mondes, c'est pas grand-chose, mais bon, l'année suivante, ça se vend plutôt
mieux que prévu.
En tout cas, mieux ou pas, parce qu'on n'avait pas de comment dire, de background, d'expérience en la matière. Mais en tout cas, ça plaît. Et puis les choses comme ça ont évolué, donc on a continué de travailler sur la RM02 ou à un moment en grande partie sur cette idée de dire que finalement tirer une couronne c'est un peu impropre et c'était intéressant de travailler sur le bouton coaxial pour mettre la position remontage, la position mise à l'heure et la position neutre comme une boîte de vitesse et ne plus avoir finalement à tirer avec X kilos de force dans les doigts. Et puis les choses comme ça ont évolué jusqu'au moment où chaque année ça progressait et à un moment je pas de façon précise mais je dirais peut-être au bout de 4 ou 5 ans Richard a eu l'idée de dire maintenant on va faire une montre 3 aiguilles classique évidemment moins onéreuse mais très onéreuse pour une 3 aiguilles, c'est-à-dire que on était aussi après 2000 dans le changement franc-euro venait de démarrer et en gros Richard a dit bah, finalement les gens qui n'avaient pas 200 000 euros ils ont peut-être 200 000 francs. D'accord. C'est-à-dire l'équivalent de 35 000 euros pour acheter une montre 3 aiguilles. Et c'est la RM05 à ce moment-là qui arrive et qui est donc une 3 aiguilles, boîte Richard Mille, assimilée dans les codes de la maison et qui deviendra un peu plus tard la RM010 dans un volume un peu plus important. Et en fait, à cette époque-là, grosso modo, d'ailleurs, bon, alors ça a beaucoup de succès, mais on revient quand même toujours à cette histoire de visualisation de la valeur, c'est-à-dire sans parler de spéculation, c'est-à-dire que le porteur ait une RM10 ou une RM01 ou 02 dans l'esprit de tout le monde, c'est un charme, le point. Ouais. Donc ça vaut pas de prix, ça vaut une fortune. Et quelque part, cet aspect-là de la question, il a été d'une certaine façon un peu le déclencheur. Maintenant, c'est vrai aussi que le début des années 2000, c'est une période relativement, on va dire, économiquement en tout cas favorable, même s'il y a eu le 11 septembre, même si, je veux dire, 2008 ensuite. Mais en fait, il y a eu quand même un certain nombre d'années où je dirais, et je pense que ça a bénéficié, c'est toujours pareil, il y a toujours un peu les hasards du timing qui font qu'à un moment donné, moi les années 2000, j'avais beaucoup de clients qui d'une façon raisonnaient sur le « j'achète donc j'existe ».
D'accord, donc très…
Très, pas m'as-tu vu, mais très dans le réflexe aussi de « c'est nouveau, il me le faut ».
Ok.
Ok, okay. Donc Richard participe aussi à ça. Et en plus, c'est extrêmement cher, on ne sera pas beaucoup à la voir, il me le faut. Les gens sont beaucoup plus tempérés aujourd'hui. C'est-à-dire, moi j'ai des clients qui, pour s'amuser, me disent « Oui, aussi, j'étais comme ça dans les années 2000, mais au bout de 8 secondes, 8 minutes ou 80 minutes, si je ne pense plus à ça, j'en ai pas besoin, on n'a plus besoin de rien, mais je passe à autre chose. » Alors qu'à l'époque, on n'attendait pas plus de 8 secondes. C'est-à-dire, il me le faut. C'était une sorte de... D'ailleurs, ça a été une bulle horlogère pour la majorité nombre de maisons qui, de toute façon, dans les années 2000, ont explosé. Enfin, tout le monde a explosé dans l'horlogerie à ce moment-là.
Mais comment était le marché des indépendants quand la marque est lancée, enfin, mais quel a été l'impact?
L'impact, il a mis d'abord un peu de temps à se faire, même si ça a été relativement rapide. Il y avait des gens comme François Pauljourne à ce moment-là qui étaient en train de faire aussi la construction de leur maison. Il y avait des gens comme Leroy qui essayaient de faire des trucs d'ailleurs en association avec François Paul, avec des techniques horlogères avancées, enfin des sociétés qui travaillaient sur le sujet. Je veux dire, on peut pas réellement parler à l'époque d'une foule d'indépendants, même s'il y a déjà des gens de l'époque qui sont dans le sérail, hein. Enfin, je veux dire, Urbert qui existe à l'époque. Ouais. Mais d'une certaine façon, bon, c'est embryonnaire, etc. Et en fait, cet aspect-là de la question, il est assez important. C'est-à-dire que l'aventure Richard Mille de ces années-là, elle a donné la confiance à beaucoup de gens qui étaient des horlogers indépendants, qui d'un seul coup ont vu, parce que bon, il y a eu beaucoup de communication, les réinvestissements en communication ont été assez martelés. Il y a eu la participation très vite au premier tour auto, donc avec les voitures vintage, etc., sur le circuit du Mans. On est allé assez vite aussi vers des ambassadeurs, que ce soit dans la Formule 1, pour aller après vers le tennis et beaucoup d'univers de différents types. Et en fait, beaucoup d'indépendants à l'époque, je pense que ça a compté pour des gens comme, je parlais d'Urwerk, mais beaucoup d'autres, se sont dit finalement...
Il y a une carte à jouer.
Ça nous met en confiance. Pourquoi ? Alors après, ça nous amène presque vers un autre débat, mais c'est intéressant. C'est que, ils se disent, ce type-là, il n'est pas horloger. Mmh. Ce qui n'est pas nécessaire, forcément. Hein. Mais en tout cas, bon... Il est en train de démontrer que c'est faisable. Nous, on est horloger, ce qui est parfois d'ailleurs un frein, mais qui peut, dans leur esprit, être une arme fatale.
Oui.
Et donc, beaucoup à ce moment-là se disent bah, ce qu'il est en train de construire et qui a l'air de. Enfin, même pas qui a l'air, mais qui est en train de démarrer de façon assez forte, bah, finalement, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Nous aussi. À aller se frotter à une réalité de dire on va lancer notre marque aussi.
Ok.
D'abord parce qu'on est dans ce business, mais en termes d'horloger, déjà parfois depuis un peu plus longtemps, qu'on fait des choses assez particulières, qu'on a pas mal d'idées, etc. Allons-y. Et je pense que, en fait, c'est un des aspects extrêmement importants, si on se remet dans le contexte de l'époque, de dire que finalement ça a ouvert la porte à plein de gens qui auraient peut-être pas osé auparavant. Donc ça c'était assez cool.
Et donc en 2001, enfin bah la première monde sort, mais vous faites Baselworld. Enfin mais vous faites.
Richard il fait Baselworld avec la montre dans la poche, le salon de Genève pareil. Mais pour vendre 43 montres, t'as pas besoin de monter un stand. Surtout, encore une fois, parce que tu connais les 10 détaillants dans le monde qui sont potentiels. Et ouais. puis, Richard, comme moi, on les connaît. C'est-à-dire qu'on n'a pas de porte à pousser plus que ça. Donc, les choses se font assez naturellement. On peut considérer, en fait, que après, au bout de 5, 6, 7 ans, ça y est, le truc, il est lancé.
Il est lancé.
Okay. Et que quel que soit le type de monde qui sorte, sans être méchant, parce que parfois il y a des trucs où, bon, mais ça fonctionne, ça marche. Donc moi je sors hein, de l'histoire de 5-6 ans, parce que dans les associations c'est toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire que quand c'est un super désastre ou un très grand succès. On va dire que les vrais visages apparaissent, et puis il y a un moment, moi j'ai pas envie de passer mon temps à me battre ou à m'énerver, parce moi je travaille avec beaucoup de maisons, et ouais, à un moment ouais. C'est bon, mais c'est une histoire quand même malgré tout qui est assez intéressante, qui aujourd'hui est sur les rails, bon maintenant avec des argumentations qui sont un peu plus éloigné de ma façon de penser sur la spéculation, sur la cohérence, sur etc. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a eu il y a déjà quelques années, mais au même titre que l'a fait Audemars Piguet, et d'une certaine façon, on peut considérer que c'est les idées se sont échangées facilement, puisque Audemars a maintenant les 20% de Richard Mille. Et que Renaud Papy qui... continue de faire une partie, non pas toute, puisque on sait que ouais. on sait que Vaucher et Dubois des Pras sont aussi sur certains modèles. Mais à un moment, donc, Richard décide de fermer sa distribution. Il dit voilà, moi, finalement, les Cara à Saint-Barth, les Marcus à Londres, les Pisa à Milan, les Chronopassion à Paris, etc.
On ferme.
Fini. On va faire notre propre boutique. Mais bon, Audemars l'a fait derrière de la même façon. Bon, si ce n'est qu'Audemars a été d'une élégance de Jean Cloban, ça c'est encore une autre histoire, mais on y reviendra peut-être le jour où on parle d'Audemars. Mais en tout cas, voilà, donc c'était finalement les quelques acteurs qui ont construit, enfin qui ont aidé à construire cette notoriété et cet intérêt pour la marque. Bon, maintenant c'est la vie, hein, je veux dire.
Oui.
Ça s'est passé et ça se passera encore dans d'autres maisons. Mais après, bon, c'est ce qui est vrai aussi, c'est que le côté distribution monomarque n'est pas toujours évident.
C'est très compliqué en soi, au début.
Moi, j'ai toujours fait quelque chose avec où je suis connecté, c'est-à-dire on a eu une boutique Audemars, on a eu une boutique Hublot, on a aujourd'hui une boutique MBNF, Lab, mais elle est connectée.
Oui.
Au multimarque, parce que je pense que malgré tout la grosse difficulté dans les boutiques monomarques en règle générale, et on le voit aujourd'hui avec des difficultés de gestion, d'arrogance, de peu ou pas de montres dans plein de boutiques, de nécessité de prendre rendez-vous pour un service après-vente, ouais. etc. Enfin bon, d'un seul coup on commence à être un peu dans la victimisation, non pas fashion mais un peu légèrement discutable, de se dire souvent la boutique monomarque elle dit ben nous ce qu'on vous propose c'est ce qu'il y a de mieux, le reste c'est sans intérêt, alors que on a des clients qui ont souvent plus de marques que nous,
ouais.
alors qu'on en a une trentaine, donc mais bon après ça c'est aussi le business model d'aujourd'hui, c'est-à-dire peu d'indépendants dans la distribution, des marques internationales quasiment toutes les mêmes dans les grandes artères du monde entier,
ouais.
bon ok. C'est comme ça.
Ben c'est comme ça. Mais est-ce que l'anecdote sur le prix est vraie? Parce qu'on dit que, enfin, il y a une rumeur mais qui court, mais comme quoi une personne se serait trompée
non.
d'une virgule mais d'une vente.
Non.
Et...
Non, parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, quand les cotations sont arrivées, il n'y a plus eu ce moment de doute.
Forcément.
Mais ça, c'est quelque chose qui était back-office, qui s'est passé ici. Mais qui a été un élément déterminant pour la suite. Est-ce qu'on garde cette montre à 176 000 euros ou est-ce qu'on va proposer une montre à 50 ou 60 000? Et ça n'aurait évidemment pas été du tout la même montre.
Forcément.
Non, l'histoire de la virgule, c'est un joke, mais comme tant de rumeurs qui naissent sur plein d'histoires. Non, la réalité, c'est plus que, ok, on veut quelque chose d'implacable, bah on demande à Renaud Papy, on veut ci, on veut ça. Hein. Et à un moment, le mec dit, bah, ok, bah, voilà le total. Et là, bon.
Ouais, bah c'est ça, mais parce que vous avez dû du coup développer un mouvement, rien que pour vous.
Oui, bien sûr. D'une part, mais d'autre part, avec des qualités de finition, avec... d'ailleurs, quand tu prends en fait, le calibre de la RM01 de l'époque,
ouais.
Et un calibre équivalent aujourd'hui, les évolutions en 20 ans étaient absolument spectaculaires. Je veux dire, la première, enfin, moi j'ai eu une RM01 qui est partie dans la vente aux enchères avec quelques autres Richard Mille que j'avais quand j'ai fait mon reset chez Philips avec Coral Bax. Les qualités de finition et même, enfin, je veux dire, tout ça a évolué évidemment. C'est-à-dire la première était superbe, hein, mais pas grand-chose à voir. Il y a des choses qu'on n'arrivait pas à faire à l'époque.
Qui sont faisables du coup maintenant.
Oui, ou parce que c'était le début qu'à un moment on disait bon, on va pas encore mettre encore plus de finances sur cet aspect-là.
Ouais.
C'était plus compliqué d'avoir des balanciers blancs à l'époque. Donc le premier mouvement, on sort avec une pièce en or blanc. Et puis on a ce balancier jaune au milieu de l'échappement qui est blanc. On dit ah bon, mais à l'époque on aurait pu le résoudre hein, déjà à cette époque-là. Mais
oui.
Compte tenu de la confidentialité, du peu de pièces, des coûts, des délais, etc. On a dit on verra plus tard. Bon, ça, c'est, évidemment, ce sont des choses qui ont été résolues. Mais Mais ça va beaucoup plus loin que ça, au niveau de la construction du mouvement, au niveau des qualités de finition, au niveau même qualité, bien entendu, je veux dire. Mais ça, c'est assez... Enfin, ça semble normal, quoi.
Ouais, ça, c'est clair. Bah, merci beaucoup, Laurent,
pour... Je t'en prie.
Pour toutes tes réponses. Et puis, on se retrouve pour un nouveau épisode. Et puis, mais dites-nous dans les commentaires si vous avez des questions. Dites-le nous. Et on vous dit... À la prochaine. Salut.
Merci.